Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat particulier, en effet plus long qu'à l'accoutumée, sur la politique culturelle en temps de crise du coronavirus. À l'ordre du jour ce soir de cette émission qui sera co-animée avec moi par Chloé Cambrelin. Bonsoir Chloé.
Bonsoir à tous.
Comment la culture peut-elle se réinventer? France Culture propose depuis près de 2 semaines d'imaginer la culture demain. C'est un rendez-vous d'ailleurs que vous pouvez retrouver chaque jour dans les matins de France Culture. Nous allons ce soir nourrir cette discussion sur l'avenir, mais pour ce faire, il est nécessaire de commencer par l'urgence du présent. La semaine dernière, le président de la République a répondu en partie à cette urgence en annonçant la prolongation des droits des intermittents du spectacle jusqu'en août 2021, mais bien des points restent encore à éclaircir. Et c'est avec ces hypothèques à lever d'urgence que nous allons ouvrir ce matin le débat avec nos 3 invités, chacun chez eux, mais en direct avec nous. Franck Riester, ministre de la Culture, Denis Gravouille, secrétaire général de la CGT Spectacle, et Nicolas Dubourg, président du SYNDEAC, Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles, et directeur du Théâtre La Vignette, Université Paul Valéry de Montpellier. Bonsoir, monsieur le ministre, vous êtes avec nous, Franck Riester, merci d'être avec nous pour cette longue émission. Bonsoir. De 50 minutes. Depuis le ministère où vous vous trouvez, l'urgence est partout aujourd'hui, on sait que tous les secteurs demandent beaucoup d'argent. Quelle est aujourd'hui, comme ministre de la Culture, votre marge de manœuvre par rapport aux autres ministères qui sont également gourmands en crédit en temps de crise?
Oui, c'est vrai que la spécificité de cette crise, c'est qu'elle touche tous les secteurs, et elle touche particulièrement violemment un certain nombre de ces secteurs, dont la culture. Et la culture, c'est évidemment beaucoup de champs différents, de secteurs différents, et chacun est malheureusement touché de plein fouet. J'étais tout à l'heure dans une conférence avec les auteurs de l'écrit, qui sont particulièrement touchés aussi par cette crise. Et donc, j'enchaîne depuis plusieurs semaines beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges pour essayer de trouver des solutions d'urgence. On pourra y revenir si vous le souhaitez, parce que beaucoup de décisions ont été prises pour faire face à l'urgence. Et puis, à essayer de préparer, je dirais, les 2 étapes qui arrivent. L'étape qui a commencé à partir d'hier, qui est l'étape de la reprise progressive. Et là aussi, je pense qu'on va pouvoir en reparler. Et avec la nécessité d'accompagner cette reprise pour assurer la résilience de tous les acteurs de la culture dans ces moments-là. Et puis ensuite, il faudra penser l'avenir. Penser l'avenir en termes de relance, en termes de réaffirmation de la force des politiques culturelles, notamment en matière de services publics de la culture, et puis aussi peut-être inventer des nouvelles formes d'accompagnement ou réinventer un certain nombre de ces politiques. Mmh.
Nous allons parler de tous ces points, effectivement, et y compris des auteurs qui se sont longtemps sentis oubliés. Mais d'abord, Denis Gravouille, juste peut-être avec vous, est-ce qu'aujourd'hui, justement, les artisans, les artistes du spectacle et de la culture avec lesquels vous travaillez ont le sentiment que leur cause pèse dans ce contexte d'urgence générale?
Oui, bonsoir, vous m'entendez bien?
Oui, très bien.
Sur le constat du fait que la situation est catastrophique, on est d'accord. Maintenant, les annonces qui ont été faites par Emmanuel Macron et puis par le ministre, bonjour monsieur le ministre, demandent effectivement beaucoup de précisions. Beaucoup de précisions, parce que, comme vous le dites, par exemple, on va y venir dans le détail, hein, mais on a eu beaucoup d'annonces et on a encore le sentiment que, au-delà des annonces, il faut que ça devienne concret, quoi. Que ce soit sur l'assurance chômage, que ce soit sur les politiques culturelles, que ce soit sur les reprises, les conditions dans lesquelles on va pouvoir travailler, que ce soit sur le service public. Je suis ravi d'entendre le mot service public de la culture, puis d'ailleurs on est sur Radio France. Simplement, il va falloir mettre de la chair dans tout ça. Et puis, faut le dire clairement, c'est à la fois redéfinir des services publics qui étaient quand même plutôt mis à mal, et puis effectivement un certain budget de toute façon qu'il va falloir chiffrer.
Alors justement, Franck Riester, la semaine dernière, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces, en particulier la question de la prolongation des droits pour les intermittents du spectacle jusqu'en août 2021. Mais il y avait très peu de chiffres pour accompagner ces mesures, hormis les 50 millions d'euros qui étaient prévus pour le Centre National de la Musique. Est-ce que vous avez avancé là-dessus? Est-ce que vous avez commencé à chiffrer ces mesures d'aide secteur par secteur de la culture?
Oui, d'abord, en termes de bilan de ce qui a été fait, est-ce qu'ils sont les annonces en termes de chiffrage? D'abord, sur les différentes mesures qui ont été mises en œuvre dans l'urgence, par exemple, sur les prêts garantis par l'État pour les entreprises du secteur de la culture, c'est 300 millions d'euros de crédits qui ont été mobilisés. Pour le fonds de solidarité pour les TPE et les indépendants, c'est 52 millions d'euros qui ont été déjà activés à fin avril. Le report des charges sociales pour celles et ceux qui en avaient besoin dans le secteur de la culture, c'est 42 millions d'euros. Donc vous voyez que concrètement déjà, on voit à quel point la mobilisation financière de l'État a été très importante, sans compter tout le chiffrage sur le chômage partiel, que je n'ai pas à cette heure, mais qui évidemment va représenter beaucoup d'argent. En ce qui concerne les annonces du président de la République, sur d'abord l'annonce phare concernant les intermittents, c'est artistes et techniciens du secteur du cinéma, du spectacle vivant et de l'audiovisuel, c'est évidemment vraisemblablement plusieurs centaines de millions d'euros qui vont être mobilisés, puisque l'idée, c'est de prolonger les droits jusqu'à fin août 2021, avec une prorogation aussi des dates anniversaires de ce fait. Les modalités précises de ce que ça signifie, ça doit être évidemment entériné dans les jours qui viennent, et on aura l'occasion d'en discuter avec, bien sûr, Denis Gravouille et toutes les organisations syndicales concernées. Je veux que toutes les choses se fassent en transparence, parce que le message du chef de l'État, il était très fort. Il est de dire on protège ce qui est une des forces des politiques culturelles françaises, c'est ce régime de l'intermittence qui permet de protéger celles et ceux qui en bénéficient des aléas de leur métier, de la précarité dans laquelle ils sont. Et pour autant, bien évidemment, c'est pas une fin en soi. Le président l'a dit, je ne cesse de le dire, l'idée c'est d'ensuite progressivement retrouver de l'activité dans tous les champs de la culture, tout en étant bien évidemment conscient que tout ça va se faire que progressivement, d'où l'importance de sécuriser les intermittents, comme on essaye aussi de sécuriser les artistes auteurs.
Mais par exemple, sur le fonds de garantie sur les tournages qui devait être donc qui était annoncé pour...
Ah oui. Alors le reste, effectivement, merci des annonces. Sur le fond, on a besoin de faire recommencer les tournages dans le cinéma et l'audiovisuel. Pour ça, il y a nécessité d'avoir un guide pratique, des mesures de sécurité sanitaire à respecter. Ça, c'est, les discussions sont en finalisation dans le cadre de la branche de la production. Et ça sera évidemment ensuite envoyé à toutes les entreprises de production pour qu'elles soient respectées. Ensuite, il y a le deuxième point, c'est d'assurer les producteurs en cas de risque Covid dans l'avenir. Malheureusement,
parce que les assureurs ne le font pas.
Exactement, les assurances ne veulent pas, pour différentes raisons de réassurance de leur côté, mettre en place des polices spécifiques de risque Covid. Et donc, il faut que là, la puissance publique soit au rendez-vous. C'est fait, le président de la République l'a annoncé. L'État va mettre de son côté 50 millions d'euros dans ce fonds, qui aura vocation à indemniser les producteurs si jamais ils ont un sinistre Covid dans l'avenir. Et ce fonds va être renforcé, conforté par les collectivités territoriales qui le souhaiteront. Et nous sommes en discussion avec les assurances et éventuellement un certain nombre de banques pour qu'elles viennent aussi abonder ce fonds. Donc c'est 50 millions d'euros. Comme nous allons avoir plus de 100 millions d'euros de mobiliser pour la banque des industries culturelles et créatives, donc des métiers, des entreprises de la culture, l'IFSIC, qui va avoir plus de 105 millions d'euros dédiés spécifiquement aux prêts pour les entreprises du secteur de la culture. Ça a été aussi une des décisions annoncées par le président de la République.
Pour ce qui est du programme de commande publique pour la culture qui a été également annoncé, est-ce que là aussi vous avez un ordre de grandeur, un chiffre à nous donner ce soir ?
Non, j'ai pas d'ordre de grandeur pour l'instant à vous donner. Nous y travaillons, tant sur le quantum du fonds, que la façon dont on peut aussi demander à des partenaires de venir abonder ce fonds, en tout cas cette démarche de commande publique.
Des partenaires de quel type ?
Ça peut être des collectivités territoriales, ça peut être des partenaires privés. Enfin, on veut mobiliser tout l'écosystème qui d'habitude intègre soit la commande publique, soit la commande privée, d'avoir un grand plan de soutien, de commande aux artistes dans les différents champs des artistes auteurs, des arts visuels à l'écrit et de la scénographie à l'audiovisuel. Bon, bref, on a vraiment besoin de mobiliser de la commande publique dans tous les champs des arts, y compris aussi d'ailleurs les métiers d'art. Et donc on est mobilisé dessus. Et dès que je peux vous dire un montant, je vous le dirai. Mais en tout cas, l'ambition est grande et donc les financements seront grands aussi, sont importants aussi.
Chloé Cambrelin.
Nicolas Dubourg, vous êtes avec nous aussi, donc président du Syndéac. Vous avez, comme la CGT Spectacle, après les annonces d'Emmanuel Macron, salué certaines mesures annoncées, notamment la prolongation des droits pour les intermittents du spectacle. Mais vous disiez, vous aussi, qu'il manquait des précision, alors notamment pour les modalités de cette prolongation des droits, on va peut-être pas pouvoir entrer dans le détail techniquement, mais aussi un manque de chiffrage, disiez-vous. Est-ce que là, vous restez encore sur votre faim ou quels sont les points à éclaircir, selon vous, de toute urgence ?
Oui, alors concernant l'annonce sur les intermittents, il faut savoir qu'il y avait eu un travail assez conséquent des organisations syndicales pendant les 2 mois qui ont précédé ces annonces, et donc on ne peut que se réjouir qu'elles aient été reprises par le chef de l'État. Il manque bien sûr des gros, enfin il y a beaucoup de points d'interrogation là-dedans. On a entendu le chef de l'État, par exemple, parler de l'éducation artistique et culturelle. Vous savez, c'est ces heures que les artistes font au plus près des publics, dans les écoles, auprès des lycéens, dans les établissements pénitentiaires, etc., qu'on appelle donc cette éducation artistique et culturelle. Il faut savoir qu'elle ne rentre que très à la marge dans le calcul de l'intermittence.
C'est-à-dire que le nombre d'heures est plafonné, c'est cela ? C'est-à-dire que, nombre d'heures que l'on fasse auprès des écoles et des établissements pénitentiaires, eh bien, on a un plafond de 55 heures, c'est ça ? Qui
c'est
est dévolu
ça,
à ces activités.
Complètement. Le reste étant au régime général, étant cotisé au régime général, et donc ne rentrant pas dans le calcul. Donc ça, c'est un des points d'interrogation. Mais l'autre chose, il faut savoir que pour que les intermittents, pour que le régime fonctionne, il faut qu'il y ait des contrats. Et ce qu'on a observé dans la première partie de la crise, c'est que les entreprises publiques, que, entre autres, je représente, puisque le Syndéac fait partie d'une union des syndicats du public avec les forces musicales pour le lyrique ou les scènes nationales du scène public ou le Profedim, nous, on a observé qu'il y avait les contrats qui s'étaient littéralement effondrés sous l'effet de la contraction des recettes, la perte de la billetterie évidemment, la perte du mécénat, etc. Et donc l'alerte qu'on fait aujourd'hui au ministre, c'est celle-là, c'est que sauvegarder le régime de solidarité, évidemment, c'est une urgence, et je pense que les intermittents ont été satisfaits des annonces, mais il faut à tout prix et en urgence sauvegarder les structures qui sont celles qui vont pourvoir l'emploi. Parce que sans sauvegarde des structures, on ne pourra pas relancer la machine. Et j'entendais parmi les annonces d'urgence qui avaient été faites, donc évidemment, on a entendu celles qui étaient surtout portées par le ministère de l'Économie et des Finances. Mais je dois dire aujourd'hui que j'ai encore été alerté par le réseau que je représente d'une remise en question par une direction régionale des finances publiques de ce chômage partiel pour des établissements publics. Donc oui, il y a des mesures qui sont annoncées, mais je pense que le diable se niche dans les détails. Et pour la question de l'intermittence et de ces annonces du président, on souhaite, avec mon collègue Denis Gravouille, être autour de la table le plus souvent possible pour pouvoir vraiment participer à l'élaboration de ces ordonnances.
Franck Riester, justement, sur ces points qui viennent d'être soulevés par Nicolas Dubourg.
D'abord, très clairement, les propositions que j'ai faites au président de la République, dont il a évoqué les grandes lignes lors de cette rencontre mercredi, cette prise de parole mercredi. Les spécificités du secteur de la culture que j'ai remonté au ministère de l'Économie et des Finances. Il se trouve que Bruno Le Maire est un homme de culture, il connaît très bien ces questions-là et il est très sensible à ce que je peux lui remonter comme spécificité de la culture à prendre en compte dans les dispositifs transversaux d'accompagnement des entreprises et des salariés dans la crise, viennent pour beaucoup des échanges que nous avons eus avec mes services, avec les professionnels, avec Monsieur Gravouille, avec Monsieur Dubourg, avec tous les professionnels, organisations syndicales, organisations professionnelles, qui en permanence sont en lien avec les services du ministère de la Culture. Et c'est comme ça que je conçois dans l'avenir la finalisation de toutes ces annonces. Bien évidemment, Monsieur Dubourg, je l'ai dit tout à l'heure, je vous le redis, nous souhaitons travailler avec vous pour que cette année blanche, les modalités de ce qu'on entend par année blanche, puissent être finalisées, affinées avec vous. Mmh. On aura l'occasion, par exemple, de le faire dans le cadre du CNPS, du bureau du CNPS.
C'est quoi pour les auditeurs, parce qu'il ne faut pas utiliser trop d'acronymes.
Le Conseil national des professions du spectacle.
D'accord, très bien.
Qui est l'organe qui permet d'échanger, de de réguler les différents enjeux du spectacle. C'est très utile. C'est par ces institutions-là qu'on va pouvoir faire face à la crise et prévoir l'avenir. Mmh. C'est pas simplement en faisant du travail en parallèle des uns et des autres. C'est dans ces institutions-là qui permettent vraiment de mettre autour de la table tous les acteurs concernés et de mettre aussi les sujets importants.
Une question.
Et donc, attendez, juste, c'est important de le dire. En plus de ça, le message que nous on a essayé de faire passer depuis le départ, c'est de la sauvegarde des structures justement. La sauvegarde des structures, parce que ce réseau, à la fois en matière de politique culturelle de la culture, mais aussi cette vitalité des entrepreneurs de la culture, donc la partie plus privée, ce sont des structures essentielles à la vitalité culturelle de notre pays. Et c'est d'autant plus important que on a demandé à ces structures de tenir leurs engagements vis-à-vis des salariés ou vis-à-vis de celles et ceux qui avaient prévu des prestations, des spectacles pendant la période de la crise. Et c'est en les soutenant qu'on arrivera à ce qu'ils tiennent leurs engagements. D'où les mesures d'accompagnement des entreprises privées et d'où l'accompagnement évidemment budgétaire que nous devrons faire avec les collectivités territoriales des structures publiques.
Une question de Chloé Cambola.
On sait que c'est plus ou moins le cas justement en ce qui concerne de tenir les engagements qui avaient été pris. Donc il y a toutes ces mesures d'urgence, il y a cette urgence en Finistère et puis ce besoin évidemment pour tout le monde de se projeter tout de même un minimum. On serait évidemment ravis que vous puissiez nous annoncer une date de réouverture des salles de spectacle. Pas sûr que ce soit le cas ce soir. En revanche, est-ce que vous travaillez sur des scénarios de réouverture et quel scénario et avec qui vous travaillez dessus?
Alors, vous savez qu'en matière culturelle, sont réouvertes à partir d'hier et d'aujourd'hui un certain nombre de structures. Les librairies, les disquaires, les galeries d'art et un certain nombre de musées et de monuments historiques. Nous ferons le point fin mai, le premier fera le point fin mai de la situation épidémiologique pour voir si on peut aller plus loin dans le déconfinement. Et de ce point de vue-là, on travaille évidemment à la façon de pouvoir ouvrir la possibilité à du spectacle vivant et à la réouverture des salles de cinéma notamment. Bien évidemment, pour ça, il faut s'assurer que les mesures de protection sont bien prises. Je pense par exemple à ce qui est en train d'être finalisé au niveau du CNPS, justement sur le spectacle vivant, quelles sont les règles de protection à la fois des artistes, des salariés, des structures et du public pour refaire du spectacle vivant, et ensuite de voir à partir de quand progressivement les choses peuvent se mettre en place. Nous, on dit quoi? On dit on va vous donner les grandes lignes de règles à respecter, et ensuite on fait confiance aux acteurs. On fait confiance aux acteurs pour trouver les voies et moyens de pouvoir, s'ils le souhaitent, s'ils le peuvent, recommencer à répéter, recommencer à créer, recommencer à se mettre devant un public. Et on sera avec eux, à leur côté, pour les soutenir dans cette reprise. Mais c'est à eux de le faire, à eux de le choisir, en lien bien sûr avec les collectivités territoriales et les préfets.
Il leur faut une date tout de même, une date approximative, mais une date tout de même.
Alors, l'idée, c'est encore une fois, dans 3 semaines, en un peu moins de 3 semaines maintenant, de se dire est-ce que oui ou non on peut aller plus loin dans le déconfinement et commencer par exemple peut-être à partir du 2 juin à organiser un certain nombre de manifestations culturelles, de spectacles vivants. Je ne peux pas vous le dire pour maintenant, mais peut-être que ça sera une des décisions. Mais on peut d'ores et déjà réfléchir aux modalités de mise en œuvre de cette réouverture. En discutant entre professionnels, c'est ce qui est fait au niveau national, et ensuite en discutant localement, en faisant confiance aux acteurs de terrain en lien avec les maires.
Sur ce point, Denis Gravouille, vous avez d'autres scénarios que ceux-ci ou vous attendez justement ce type de scénario pour réfléchir?
Non, il y a plusieurs scénarios, mais juste, je voulais juste terminer sur les questions d'urgence, parce qu'on a l'air de passer très très vite à la reprise, mais là, il y a encore, par exemple, pas mal de salariés et d'entreprises qui essayent d'avoir accès à l'activité partielle. On a des promesses d'embauche qui sont bloquées par une date qui est complètement arbitraire et pas valable juridiquement le 17 mars. Il y a des reports de dates qui sont possibles ou pas possibles parce qu'il y a des atermoiements entre le ministère du Travail et le ministère de la Culture à régler. Il y a le guichet unique du spectacle occasionnel qui permet à des employeurs non professionnels d'embaucher du monde qui, pour l'instant, n'ont pas activité à accès à l'activité partielle. Et puis sur l'assurance chômage, juste très rapidement, mais il y a plein de points. Il y a les prolongations des dates anniversaires, mais il y a des questions de franchise, il y a des questions de pour les femmes qui reviennent de congés maternité qui sont pas réglées, qui se retrouvent sans indemnité. Et là, on a un blocage absurde. Il y a tous les nouveaux entrants. Et puis, on n'oublie pas des gens du régime général sur la réforme de l'assurance chômage qui est absolument scandaleuse et qui concerne parfois des gens de la culture. C'est des gens pas qui sont forcément de nos métiers et avec lesquels on est solidaires, mais il y a par exemple des gens qui travaillent sur les festivals qui sont des CDD entre guillemets de droit commun et qui vont être touchés par une réforme qu'il faut absolument annuler. Dites-le à Madame Pénicaud qui va justement, et vous avez raison, il faut qu'on soit associé, c'est ce qu'on demande, il faut qu'on soit associé à la définition des règles, que ce soit sur l'assurance chômage, fournissez-nous les projets de décret, qu'on puisse aborder tous les points, et ça c'est extrêmement important. J'ai entendu votre engagement, mais il faut que ce soit suivi par tout le gouvernement. Et sur les scénarios de reprise, c'est exactement pareil. On propose un comité sanitaire et social parce qu'on a un double problème. C'est à la fois des salariés qui vont se retrouver à travailler ensemble et puis respecter les 4 mètres carrés quand on danse sur scène ou quand on travaille dans un tout petit espace, sur un lieu de tournage par exemple. C'est quand même pas facile, donc ça demande une grande inventivité. Puis quand il faut accueillir du public en plus, c'est extrêmement compliqué. On nous parle de réouverture des salles de cinéma mi-juillet, mais comment on va faire en sorte de s'assurer que ni les salariés ni le public ne tombent malades? C'est valable évidemment encore plus en spectacle vivant. Et bon, voilà, on est tous très pressés de revenir, mais personne ne veut prendre des risques inconsidérés avec le Covid. Et on a quand même l'impression qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
Et c'est pour ça, d'où la question aussi sur comment et avec qui on travaille sur ces différents scénarios, parce que justement c'est très compliqué et que ce ne sera pas forcément la même chose partout. Là-dessus, Nicolas Dubourg, je crois que vous avez regretté aussi un manque de discussion. Justement, on parle de ce Conseil national des professions du spectacle. Il faudrait qu'ils se réunissent, mais qu'en est-il? Est-ce que par exemple, en ce moment, ils se réunissent régulièrement? Est-ce qu'il y a des discussions au sein de ces instances?
Alors, ce que je dis par rapport à ce conseil, on est content de l'annonce du ministre qui le met en place, qui le fait fonctionner et qui va le solliciter par rapport à ça, puisque certains rapports, on a vu circuler certains rapports qui n'avaient pas été spécialement commandés justement par la parité et qui avaient, pour nous, qui étaient un peu des tissus d'ineptie.
Vous visez quel type de rapport?
Oh, des rapports qui ont circulé. Je n'ai pas spécialement envie de leur faire la publicité. Mais en tout cas, ce qui nous importe effectivement, c'est que on l'a observé ces derniers jours, notamment dans les écoles. Ce que j'ai cru comprendre, notamment de la part de l'Association des maires de France, c'était un manque de concertation. Et que ce que nous, on réclame, puisqu'on est un secteur qui est très, très organisé, avec des spécificités fortes, c'est que la verticalité ne soit pas le maître mot et qu'au contraire, on arrive à trouver une méthode qui nous permette de fonctionner. Donc, sur la méthode, on est d'accord. Mais là où on a un besoin, c'est d'avancer maintenant rapidement. Cette crise, elle a plus de 2 mois. On est quasiment à la mi-mai et on a besoin d'accélérer sur le rythme de la concertation parce que moi, mes collègues en ce moment, le SMS quotidien que je reçois, c'est est-ce que j'imprime concrètement ma plaquette? Est-ce que je peux réouvrir ma salle de répétition? Vous parliez tout à l'heure, monsieur le ministre, de l'importance de relancer les tournages, mais nous, on ne pourra pas lancer les saisons si les acteurs, les danseurs, les musiciens sont pas au travail dès le mois de mai. Donc on a besoin de définir des conditions qui soient acceptables. Et je veux juste finir sur un point qui est important, parce que j'ai des alertes qui peuvent venir par exemple du Centre Dramatique National de Sartrouville qui va voir par exemple un arrêté à un moment donné qui va comme une forme d'interdiction jusque à une certaine date. On a besoin que l'État fasse toute son autorité, notamment à travers les préfets, pour permettre aux maires d'ouvrir dans des conditions de garantie, de sécurité, je parle pour les élus. Aujourd'hui, ce qu'on craint, c'est que ce soit un peu comme l'expression qui circule, c'est ceinture et bretelles. C'est qu'on est trop précautions sur certaines choses.
La réponse de Franck Riester.
Non, mais écoutez, je comprends tout ce qui vient d'être dit, je le comprends parfaitement. Je sais qu'il y a besoin d'avoir des réponses, il y a besoin d'avoir de la visibilité. Croyez-moi que si je pouvais vous dire, vous pouvez commencer à telle date et c'est telle condition et c'est sûr et c'est certain et vous pouvez y aller, je le ferais évidemment. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment va évoluer l'épidémie et que nous devons à la fois recommencer à vivre progressivement comme était notre vie d'avant, tout en étant bien convaincu qu'il va falloir quand même vivre avec le virus et qu'il va falloir prendre les décisions progressives pour pas qu'il y ait à nouveau de poussée épidémique. C'est ça le sujet. Donc on a pris comme méthode, on peut la discuter peut-être, mais enfin la méthode qui a été retenue, c'est de dire on fait un point toutes les 3 semaines. On commence à partir du 11 mai à rouvrir un certain nombre d'activités, notamment d'activités culturelles. On se prépare dans l'intervalle pour que si jamais on peut prendre la décision, si on arrive à prendre la décision de dire on va plus loin dans le déconfinement, que les structures soient prêtes pour pouvoir rouvrir. Et cette décision, elle sera prise. L'étape suivante, c'est fin mai, début juin. Fin mai, début juin, on pourra dire est-ce que oui ou non on peut rouvrir un certain nombre de spectacles vivants et à quelle échéance, et est-ce que oui ou non on peut, et selon quelle modalité, et si oui ou non on peut commencer à rouvrir des salles de cinéma, à quelle date et selon quelle échéance. Et ensuite, on fait confiance aux acteurs de terrain. Monsieur Dubourg, moi je vais pas aller contre un maire qui aura le sentiment de dire moi je pour l'instant les conditions sont pas réunies pour que je rouvre. Je vais l'inciter, je vais lui dire écoutez, c'est important que les artistes recréent, que répètent, qu'ils puissent retrouver un public, mais il faut dans le cadre de bonnes relations entre les différentes institutions culturelles, le ministère de la Culture, les élus et les préfets, les décisions soient prises. Objectivement, ça se passe pas si mal que ça pour l'instant. Je le vois pour les librairies, je le vois pour les musées et les monuments historiques. Il peut y avoir ici ou là des problèmes. On a la chance d'avoir au ministère de la Culture des équipes dans les directions régionales des affaires culturelles. Donc c'est au plus près des acteurs qui sont très réactifs et qui peuvent apporter des réponses et apporter des, notamment des médiations si jamais c'est nécessaire. Et le ministère, ses administrations centrales et le ministre lui-même et ses équipes veillent, croyez-moi, de près sur tous les éventuels dysfonctionnements qu'il y aurait par rapport à cette méthode générale. La concertation, elle est, je pense, de bon niveau. On essaye de faire en sorte qu'il y ait des CNPS, soit bureaux, soit en plénière, qui puissent se réunir très régulièrement. Je sais que c'est assez récent, mais enfin, en tout cas, ces dernières semaines, ça fonctionne. La semaine prochaine, je présiderai moi-même un bureau du CNPS. S'il faut l'améliorer, Monsieur Gravouille, on l'améliore. Mais ma conviction, c'est que c'est justement dans ces échanges avec vous qu'on arrivera à sortir les bonnes décisions. Après, il faut laisser aussi les structures de terrain s'adapter à leur réalité de terrain en lien avec les acteurs que sont les collectivités territoriales et les préfets. Un mot quand même pour dire que l'activité partielle concernant les entreprises, elle est prise à 100% par l'État et l'UNEDIC pour les mois de mars, avril et mai. À partir de juin, Muriel Pénicaud a dit très clairement que pour les entreprises dans les secteurs qui avaient repris, il y aurait peut-être une participation des employeurs au financement de cette activité partielle. Pour ce qui concerne les activités qui sont fermées, ça restera pris à 100% par les acteurs dont je parlais tout à l'heure. Et je crois que c'est évidemment très fort. Ensuite, qu'il y ait encore des problèmes, vous avez raison, Monsieur Gravouille. Et on a eu l'occasion d'en parler tous les deux. On a eu l'occasion d'en parler dans les différents sujets. On travaille sur ces problématique. La question des nouveaux entrants, oui, on a mis en place avec Audience un fonds d'aide sociale qui permet pour les artistes ou les techniciens qui n'ont pas pu rentrer dans le dispositif de l'intermittence alors qu'ils auraient pu y rentrer, d'avoir une aide sociale si jamais ils sont dans la difficulté sociale. Et on va continuer de veiller à ce que les trous dans la raquette soient les moins nombreux possibles. Pardon ?
D'accord. La concertation, il faut quand même faire en sorte qu'on ait par exemple des COREPS, des comités régionaux, oui. Et qu'il y ait la déclinaison du CNPS au niveau régional.
Les comités régionaux qui sont mis en place dans toutes les régions, dans certaines régions comme Occitanie
Dans 2 régions sur 13, malheureusement seulement. Donc c'est toutes ces questions-là, le réseau des DRAC par exemple, faut les renforcer. Tout ce qui a été fait qui l'a affaibli depuis quelque temps, faut revenir dessus parce que là on va peut-être y venir justement. C'est comment on renforce le service public, notamment les services du ministère, que ce soit les services centraux ou déconcentrés, pour que justement on réaccompagne, parce que là on est en train de redécouvrir le service public, que ce soit évidemment pour les secteurs du spectacle, tous les secteurs de la culture, et j'oublie pas les auteurs puisqu'on a dit qu'on en parlerait.
Dans un instant, une petite pause. On écoute The Times They Are Changing de Bob Dylan, évoquant justement ce grand changement qui serait lié justement à une nouvelle attitude peut-être des milieux de la culture à partir de cette crise du coronavirus. I'm gathering people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, And you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times they are a-changing.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un temps du débat consacré avec Chloé Cambrelin à la question de la culture. Comment la culture peut-elle se réinventer, avec le ministre de la Culture Franck Riester, avec Denis Gravouille, secrétaire général de la CGT Spectacle, et Nicolas Dubourg, président du Syndéac. On vient d'entendre les temps qui devraient changer. On le sait, dans certains milieux de la culture, les temps changent très rapidement. Ce confinement a conduit beaucoup de ceux qui consomment de la culture à aller les voir sur des plateformes donc généralement d'origine états-unienne. Et cela, ça change considérablement à la fois la consommation de la culture, mais également la manière dont on peut répartir l'argent qui permettrait de financer cette culture. Où en est-on, Franck Riester, dans ce domaine en particulier, l'application de la directive européenne qui permettrait justement, assez rapidement, on peut l'espérer, que les grandes plateformes de visionnage de films, de documentaires et d'autres types de productions culturelles puissent contribuer au financement de la culture en France, Franck Riester?
C'est un combat majeur. Il faut absolument qu'on préserve notre souveraineté culturelle française et européenne. Il faut que les nouveaux acteurs du numérique financent la création française et respectent le droit d'auteur à la française. C'est pour ça qu'on s'est battu avec le président de la République pour que les directives européennes SMA et droit d'auteur puissent être votées au niveau européen et qu'on soit les premiers à les transposer, les mettre dans la loi française. C'est vrai déjà pour la création d'un droit voisin au droit d'auteur pour les éditeurs de presse, et les journalistes et les agences de presse, pour que, en fin de compte, Google notamment et les plateformes payent les éditeurs de presse qui créent les articles qui permettent à Google de gagner beaucoup d'argent. Et c'est vrai aussi pour le reste de ces directives. Et donc, on a dit très clairement, le président l'a dit, c'était dans le projet de loi audiovisuelle, et on comprend bien qu'avec la crise, le calendrier du Parlement est modifié, alors même qu'on avait commencé la discussion sur le projet de loi audiovisuel juste avant la crise. Nous allons transposer dans le droit français la directive SMA, la directive droit d'auteur. Donc à partir de janvier 2021, les plateformes comme Netflix, comme Disney, comme Amazon Prime devront investir massivement dans le financement de la création française, dans sa diversité, et respecter le droit d'auteur à la française. C'est évidemment vital pour préserver cette création, cette exception culturelle dans le domaine cinématographique et audiovisuel. J'ajoute que nous aurons évidemment aussi à respecter ce droit d'auteur à la française, parce que nous voulons que le choix artistique reste dans la main des auteurs et éventuellement aussi des réalisateurs, enfin toutes celles et ceux qui sont les artistes dans ces filières audiovisuelles et cinématographiques.
Au-delà de ces plateformes, Netflix, etc., depuis le début du confinement, on a eu accès à beaucoup d'œuvres, de spectacles, de captations à distance, sur des plateformes aussi de médias, des institutions culturelles également. C'est très précieux en ce moment, mais c'est gratuit et ça pose quand même deux questions majeures. La rémunération des artistes, quel droit pour eux, pas grand-chose a priori, et puis quelle trace aussi cela laissera-t-il dans nos pratiques, notre rapport à la culture, parce que quand les salles vont rouvrir, il faudra payer de nouveau et il faudra payer sans doute même un peu plus cher qu'avant. Est-ce que ce sont des questions qui vous travaillent, qui vous préoccupent, Denis Gravouille ?
Et clairement, puisque justement on était déjà, Monsieur Riester le sait bien, en bataille sur la façon dont on allait transposer la directive droit d'auteur qui concerne aussi les artistes d'ailleurs, c'est auteurs et artistes, et donc effectivement la répartition qui va se faire par exemple entre les producteurs de musique et les artistes créateurs de ou participants à la musique. Donc c'est une grosse question. Il suffit pas non seulement de prendre une partie des immenses bénéfices de ces GAFA comme on dit, mais en plus il faut qu'il y ait une répartition juste en direction de ceux qui sont à l'origine des œuvres musicales ou cinématographiques ou autres. Donc ça, c'est une grosse question. Alors, c'est bien de mettre de les mettre à contribution, mais on a vu que ces GAFA, ils ont eu tendance à essayer de s'en sortir avec une petite contribution. On file 1 million d'euros à l'aide sociale. On se débrouille en faisant un truc, mais en faisant beaucoup de communiqués sur, on a filé une, et donc la vraie question, c'est comment les politiques de soutien, elles reposent sur des contributions obligatoires de tous les protagonistes du secteur. C'est comme ça que le cinéma d'ailleurs français a réussi dès la libération à imposer un système qui permet de s'alimenter, de s'auto-alimenter, de mutualiser et d'aller en direction de la diversité. Parce que la grande question, c'est qu'on sorte de la crise en faisant en sorte que non seulement, en effet, je soutiens ce qu'a dit Nicolas, il faut qu'on soutienne les structures, mais qu'on soutienne surtout les structures les plus fragiles. C'est énormément de diversité et qu'on flèche les aides. Ensuite, on va de au-delà de la contribution des GAFA, mais qu'on flèche les aides vers la diversité, vers l'emploi, de l'emploi permanent, parce qu'on oublie qu'il y a des permanents aussi, des artistes, par exemple dans les orchestres, qui ont besoin de moyens pour créer dans la durée, et qu'on crée des intermittents, des auteurs, et qu'on flèche la politique de relance avec un budget triennal suffisamment conséquent. Pour moi, c'est d'après les calculs qu'on commence à effectuer, c'est plutôt autour de 2 ou 3 milliards le plan de relance dont on a besoin, et c'est fléché en direction de l'activité, donc de l'emploi et des auteurs.
Et sur cette question de la gratuité que posait Chloé Cambrelin, monsieur le ministre, Franck Riester, qu'est-ce que vous pensez justement de ces habitudes que l'on pourrait avoir prises de désormais ne plus payer à la culture du tout, parce que justement on a été dans une période où on a pu en bénéficier de façon assez large gratuitement.
Deux choses. D'abord, je suis un grand défenseur du paiement des artistes et de la rémunération de celles et ceux qui créent. J'étais le rapporteur de la loi Hadopi il y a 10 ans, et dans le projet de loi que j'ai présenté au Parlement, il y avait toute une dimension de renforcement des dispositifs de lutte contre le piratage qui spolie les artistes, qui spolie les acteurs de la création au bénéfice d'acteurs qui font de l'argent sur le dos des créateurs. Et donc avec des dispositifs et des dispositions, pardon, qui permettaient de lutter contre les sites contrefaisants d'une façon très forte. Pour autant, dans le même temps, je pense qu'on ne peut pas ne pas avoir une vraie réflexion de fond, et nous la conduisons, sur l'accès à la culture par le numérique. Ce qui s'est passé là pendant les 2 mois, et ce que beaucoup sentaient d'une façon sous-jacente, c'est la formidable puissance des outils numériques pour permettre l'accès large à la culture. Tout l'enjeu pour les mois qui viennent et les années qui viennent, c'est de bâtir justement des politiques qui permettent à la fois de maintenir cet accès très large, tout en ayant des modèles économiques qui permettent de financer la création et celles et ceux qui le permettent ou la permettent, cette création. Et donc, c'est un vrai chantier. Moi, je suis en train de réorganiser le ministère de la Culture pour lui donner des moyens importants sur la partie outils pour les agents, système d'information et accompagnement des acteurs de la culture dans la digitalisation de leur politique culturelle, pour qu'on soit ambitieux dans ce domaine-là. Et qu'en même temps, on travaille avec tous les acteurs de la création pour voir de quelle manière on bâtit des modèles pour qu'ils soient financés, mais en permettant quand même l'accès à la culture. Je pense que, par le numérique, je pense qu'on doit évidemment s'assurer que toute l'offre physique est confortée, parce que être devant une œuvre physiquement, être dans une salle de théâtre ou dans une salle de concert, c'est irremplaçable, ou dans une salle de cinéma, c'est irremplaçable. Pour autant, les outils numériques permettent quand même d'accéder, pour beaucoup de nos compatriotes, à ces œuvres, commencer à prendre conscience de ce que ça peut être, et progressivement les inciter ensuite à aller dans les offres physiques. Donc il faut conforter les offres physiques, mais aussi investir dans les moyens nouveaux qu'apporte le numérique pour élargir l'accès à la culture, tout en bâtissant des modèles économiques qui permettent de financer la création.
Sur ce point, Nicolas Dubourg, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit par Franck Riester ?
Oui, excusez-moi, je trouve qu'il y a deux questions là-dedans. La question du numérique, pour nous, spectacle vivant, elle est à double tranchant. Si je regarde un petit peu les comportements des gens qui sont déconfinés depuis environ 48 heures, je pense à ce qui s'est passé notamment à Paris sur les quais du canal Saint-Martin, c'est que visiblement, il y a des gens qui ont envie de se retrouver. Et une des raisons d'être du spectacle vivant, c'est précisément ça, c'est ce moment que la population partage avec des artistes, mais partage de manière vivante. Donc on a cette spécificité, je veux dire, c'est essentiel à notre activité. Et ensuite, sur le débat que vous lancez par rapport au numérique comme moyen d'entrée vers le spectacle vivant, sur la question des modèles numériques, des modèles économiques qu'il pose, moi, j'ai envie de réagir en disant que la question du financement du spectacle vivant et en particulier du secteur public du spectacle vivant, elle va se poser un petit peu de la même manière que pour les autres secteurs publics. C'est-à-dire que on a souvent essayé, que ce soit à l'université, que ce soit dans le domaine de la santé, d'essayer de trouver des systèmes précisément de mise à contribution toujours grandissant du public, hein, je pense à la tarification à l'acte notamment, et que ces systèmes-là ont eu pour effet de réduire la qualité du service, de réduire la surface du service, c'est-à-dire la capacité des populations à y avoir accès, et que ce qu'on doit réinventer aujourd'hui, c'est réellement un modèle, non pas économique, mais un modèle de service public qui permette à ces services d'être disséminés, d'être au plus près de chacun sur tous les territoires, d'une part, et d'être capable aussi de réinventer. Quand on regarde ce qu'a été capable de faire la politique publique de la culture depuis 40 ans, je pense à le renouvellement des esthétiques dans le domaine de la danse contemporaine, du cirque contemporain, des arts de la rue. On a été, à un moment donné, avec le théâtre documentaire, etc. Le secteur public a été un formidable espace de renouvellement des formes. Mmh. Et pour ça, il va falloir asseoir et pérenniser en fait nos financements et ne pas le rendre dépendant toujours soit du mécénat, soit des recettes. C'est ça qui était rappelé l'autre jour par notamment Stéphane Lissner, le patron de l'Opéra de Paris. Et je pense que cette évidence de la fonte des marges artistiques de nos maisons sous l'effet de politiques qui étaient toujours d'aller chercher du côté du privé finalement des financements, ben, on a touché le bout. Mmh. La crise le révèle et qu'aujourd'hui, il faut réellement mettre à plat ce système-là. Ouais.
Franck Riester, on a entendu Denis Gravouille nous dire 3 milliards, c'est ce qu'il faudrait selon lui, nous disait-il, 3 milliards d'euros pour relancer. Est-ce que c'est un chiffre que vous pouvez reprendre? Est-ce que ce serait le fameux New Deal que certains appellent de leur vœu?
Écoutez, je ne vais pas vous donner de chiffres. Ce qui est certain, c'est que l'ambition, elle est très forte. Je me suis déjà exprimé, ça sera des moyens massifs et pérennes. Je crois qu'on peut commencer à dire qu'on est en train de le démontrer, tant sur les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure sur les mesures d'urgence, tant pour celles et ceux qui connaissent les montants nécessaires à financer la protection des intermittents du spectacle sur cette année blanche jusqu'à fin 2021. Tout le monde sait que c'est plusieurs centaines de millions d'euros, donc ça représente des moyens très considérables. Et on veut des moyens importants pour le fonds de commandes publiques. Et il y aura aussi la nécessité, et moi je rejoins tout à fait ce qui a été dit et par Denis Gravouille et par Nicolas Dubourg, de conforter le service public de la culture avec des moyens qui devront prendre en compte les pertes constatées, parce que les pertes de recettes constatées cette année, et la nécessité de se donner une ambition. Je suis absolument convaincu qu'effectivement, dans les années précédentes, du fait de l'évolution d'un certain nombre de coûts, la marge artistique a été réduite. Et c'est un point qui est un point véritablement problématique que j'ai commencé à essayer de régler, puisque dans le budget 2020, avant la crise, on a remis 8 millions d'euros de plus dans le financement de la création. Et je suis complètement convaincu qu'il faudra aller plus loin. Remettre à plat, je ne sais pas s'il faut remettre à plat. Moi, je veux vraiment qu'on s'appuie sur la force de ce service public, qu'on le fasse évoluer, qu'on se pose les bonnes questions, qu'on n'ait pas peur d'aborder les choses qui fâchent dans les deux sens, hein, du point de vue de l'État, mais aussi peut-être aussi de l'organisation de ce service public. J'ai aucun problème à le faire, mais qu'on s'appuie sur les forces, qu'on ait une ambition politique qui passe forcément par du budgétaire, et qu'ensuite on essaye de ne pas opposer le spectacle vivant, les offres physiques, à la diffusion numérique. Et je pense que de pouvoir diffuser largement via les réseaux numériques ce que sont capables de faire ces différents labels, ces différentes structures partout en France, c'est, je crois, demain un des enjeux majeurs d'accès à la culture pour notre pays.
Franck Riester, certains des membres des métiers de la culture dont nous n'avons pas parlé vont peut-être se trépigner devant leur poste en disant « Eh bien, on n'a pas parlé de ceci ou de cela ». Juste une ou deux questions, quitte à ce qu'on y revienne dans d'autres émissions de France Culture ou même du temps du débat. Les attachés de presse, les régisseurs, tout un tas de métiers qui sont liés au métier du spectacle. On dit « Nous sommes les trous dans la raquette ». Est-ce que vous comptez faire quelque chose de ce côté-là? Très brièvement, et puis ensuite deux ou trois autres secteurs, brièvement, avant qu'on y revienne dans d'autres émissions.
Oui, il y a quelques secteurs, effectivement, quelques métiers très spécifiques qui sont encore sans une réponse à la hauteur de ce qu'on peut attendre. C'est vrai, les attachés de presse, c'est vrai pour les guides conférenciers. Il y avait les pigistes à qui on a trouvé une réponse qui me semble vraiment à la hauteur. Effectivement, il y a encore quelques professions sur lesquelles on bosse avec leurs représentants pour trouver des solutions.
Les arts visuels, les arts plastiques qui sont aussi... il y avait une très bonne tribune dans Libération hier.
Oui. Très bonne. Voilà. Les arts visuels et les arts plastiques sont, on va pas se mentir, depuis des années un peu les oubliés des politiques culturelles, notamment en termes financiers. Et moi, je pense que là, vraiment, on peut avoir une vraie grande ambition sur ces arts plastiques et sur ces arts visuels. Alors, il y a le fonds, en termes de mesures d'urgence, il y a bien sûr le fonds de solidarité. Il y aura le programme de commande publique. Et ça, faut qu'on le bâtisse, notamment avec les galeristes, mais pas seulement, aussi avec les artistes eux-mêmes. Et puis, il faut qu'on en arrive à avoir des dispositions qui permettent à la fois de financer le droit de représentation des artistes dans les différentes expositions, dans les différentes manifestations où ils les exposent. Il faut qu'on rebâtisse tout ce qui concerne la formation, les écoles d'art. Les écoles d'art aujourd'hui sont sous-dotées. Il y a des problèmes d'investissement dans les locaux. Il y a un problème de fonctionnement, de moyens pour le fonctionnement de ces écoles d'art. J'y travaille. C'est colossal en termes de moyens financiers à mobiliser. Mais c'est pour moi un des grands chantiers. C'est la formation de nos jeunes artistes pour l'avenir. Et puis, c'est tout aussi la sensibilisation qu'on doit faire de nos compatriotes, de ce qu'apportent ces artistes des arts visuels à nos sociétés. Et il y a de quoi faire. Là, il y a vraiment de quoi inventer des formules nouvelles.
Et sur les auteurs de l'écrit aussi, il y avait, je crois, une réunion à distance avec vous ce matin. Qu'est-ce qui a été décidé ou annoncé pour eux?
Il va falloir aller plus loin déjà que 7 euros par personne, parce que c'était quand même ça le fonds pour les auteurs. 7 euros par artiste, auteur, donc
Là, c'est 1000. Attendez, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fonds de solidarité.
Très brièvement, une minute. Vous avez une minute.
Ouais, je sais bien, mais vous savez parler des arts. je fais ce que je peux pour essayer de vous dire le maximum de choses.
Non, mais on est d'accord.
Je vous assure que c'est beaucoup de sujets et beaucoup de questions. Il y a le fonds de solidarité, je ne veux pas le nier et ne pas le mettre sous le tapis parce que c'est un outil puissant mais qui pour l'instant n'a pas pu être mobilisé par les artistes auteurs. Ça paraît évidemment complètement dingue, mais parce que l'outil qui permet de saisir les dossiers ne prend pas en compte les artistes auteurs. C'est l'outil de la DGFiP. Ça fait des semaines qu'on essaye d'avoir les résultats et je pense que la semaine prochaine on l'aura, et ce qui permettra à tous les artistes auteurs qui sont éligibles à ce fonds de pouvoir avoir les moyens qui vont avec. Deuxièmement, il y a effectivement par secteur des artistes auteurs, et là en l'occurrence avec le CNL, un fonds qui a été mobilisé, qui est pour l'instant de 2 millions d'euros et qui permet de répondre aux artistes auteurs qui ne rentrent pas dans les cases du fonds de solidarité. Ce fonds, il aura la possibilité d'être renforcé, mais contrairement à ce que dit Monsieur Gravouille, c'est pas 7 euros, c'est pour l'instant une moyenne d'à peu près 1000 euros par intervention, par mobilisation de ce fonds par artiste auteur. Et donc j'invite les artistes auteurs de l'écrit à monter un dossier, le transmettre au CNL, parce que souvent on s'aperçoit, parce que c'est une montagne administrative bien souvent qui fait peur à juste titre aux artistes auteurs de monter leur dossier, et pour ça c'est la base, je dirais, pour pouvoir ensuite être aidé par ce fonds.
Eh bien, puisque vous nous invitez, nous vous invitons à revenir, si vous voulez bien, Monsieur le Ministre, avec d'autres interlocuteurs pour parler de toutes ces autres questions qui concernent le milieu de la culture. On sait qu'il y aura beaucoup de débats autour de cela. Un autre ministre de la Culture sera d'ailleurs dans Avoinu cette semaine sur France Culture, c'est Jacques Lang. C'est rendez-vous à 20h sur France Culture. Imagine la culture demain, c'est tous les entretiens sont à retrouver sur franceculture.fr et vous pouvez l'écouter dès demain dans les matins de France Culture. Et nous avions nous-mêmes lancé une conversation mondiale avec notamment un texte du metteur en scène portugais Tiago Rodrigues à retrouver aussi sur le site de France Culture. Merci à toutes et merci à tous.